19h. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. 100 000 cas par jour, on y sera dans quelques jours, confirme le ministre de la Santé. Le variant Omicron explose les compteurs, mais pas de nouvelles restrictions à ce stade, car on attend encore des études scientifiques solides sur sa dangerosité. De premières données dans plusieurs pays sont d'ailleurs encourageantes. On fera le point et on ira à Marseille, où les hôpitaux appellent à l'aide et au sursaut d'une population beaucoup moins vaccinée qu'ailleurs. Et en Belgique, où des Néerlandais confinés s'octroie une escapade pour les courses de Noël. Dans l'actualité encore, les cancers de la prostate liés à l'exposition aux pesticides reconnus maladies professionnelles. Ça ne concerne pas seulement le chlordécone, on le verra. Nicolas Dupont-Aignan, de plus en plus seul pour mener campagne. Et puis Matrix Résurrection, ou comment la saga a toujours été très en avance sur son temps.
Et le téléphone sonne, Fabienne.
On parle de nos forêts ce soir qui sont belles, qui prennent de l'ampleur aussi, 31% du territoire, mais qui sont de plus en plus fragiles, attaquées par des nuisibles ou par le changement climatique. Alors, est-ce qu'il faut planter plus, exploiter moins, protéger mieux? Tous les enjeux de climat et de transition bas carbone sont dans nos forêts. On en parle au 01 45 24 7000.
France Inter. Dans le dégradé de rouge d'une France frappée par la cinquième vague, une région a viré à l'écarlate ces derniers jours. C'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la plus touchée, avec un taux d'incidence qui approche les 900 cas pour 100 000 habitants. Les hôpitaux sont saturés, les soignants débordés, ils ont fait 40 000 heures supplémentaires depuis le début du mois de décembre. L'assistance publique des hôpitaux à Marseille s'organise, des lits vont être ouverts, mais il y a quand même un gros problème à ses yeux. Hugo Charpentier, c'est la vaccination à Marseille.
Avec un taux de vaccination qui plafonne autour de 60%, Marseille est à la traîne, en retard de 12 points par rapport à la moyenne nationale, alors que l'écrasante majorité des malades hospitalisés n'est pas vaccinée.
Il est très clair que l'ensemble de ces hospitalisations pourraient être évitées par une arme qui est très simple et qui est gratuite, qui est la vaccination.
Le professeur Lionel Velli, chef de service de réanimation à l'hôpital de la Timone.
On a des patients essentiellement de la cinquantaine parce que c'est la tranche d'âge où on a le plus gros trou dans la vaccination. Et donc c'est là où on a le plus de formes graves et avec des gens à 86% qui sont non vaccinés ou qui n'ont eu qu'une seule dose.
Et si on jette un œil sur la carte de Marseille, la photographie de la situation vaccinale est flagrante. Grosse différence entre les quartiers populaires et le reste de la ville. Dans les quartiers nord, moins d'une personne sur deux est vaccinée, explique François Crémieux, le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Marseille.
Il faut donc qu'on continue à faire des efforts tous pour apporter la vaccination au plus près de ceux qui aujourd'hui sont encore soit réticents à avoir une première ou une deuxième dose, soit à ceux qui sont éventuellement hésitants pour la dose de rappel. Et c'est en partie ce que fait l'assistance publique des hôpitaux de Marseille en lien avec les associations qui interviennent, notamment dans les quartiers nord qui sont aujourd'hui les plus éloignés de la vaccination et donc ceux vers lesquels il faut qu'on aille le plus rapidement possible.
Une course contre la montre engagée à Marseille alors que la cinquième vague est déjà là. Une vague désormais renforcée par le variant Omicron.
Pour les adolescents, les 12-17 ans, le gouvernement n'a pas encore tranché sur l'éventualité d'une dose de rappel. En revanche, la vaccination des enfants a débuté, ouverte depuis ce matin, confortée par les premières données disponibles aux États-Unis notamment. Sur les 7 millions d'enfants vaccinés, seuls 14 cas de myocardite ont été recensés. Le gouvernement accélère aussi sur le pass vaccinal, présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Et il semble préparer les esprits à d'éventuelles nouvelles mesures dans les prochains jours, sans plus de détails, sans doute pour une raison simple. Le variant Omicron se propage, c'est vrai, à une vitesse folle. Il sera majoritaire en France dans les prochains jours. Mais à quel point est-il dangereux? Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Alors on attend encore des études solides, mais on a quand même des indications et elles sont plutôt rassurantes en Afrique du Sud, au Danemark et au Royaume-Uni.
Oui, on va commencer par l'Afrique du Sud, où le nombre de contaminations redescend depuis plusieurs jours consécutifs. Une étude menée par les autorités sanitaires non encore relu par les pairs, il estime que les personnes infectées par Omicron ont un risque plus réduit de développer une forme grave qu'avec Delta. Mais la population sud-africaine est plus jeune et surtout a été beaucoup infectée par les vagues précédentes. Alors si on se déplace sur le vieux continent, le Danemark n'a jamais eu autant de contamination depuis le début de la pandémie. Le variant Omicron y est officiellement majoritaire depuis hier. 13 000 cas quotidiens, c'est 3 fois plus que l'année dernière à la même époque. Et pourtant, il y a pour le moment 2 fois moins de personnes hospitalisées en soins critiques. Enfin, en Grande-Bretagne, 100 000 contaminations encore annoncées ce soir. Les cas ne cessent d'augmenter depuis 15 jours et pourtant les admissions à l'hôpital bougent peu, plus 4% en une semaine. Les résultats d'une étude qui ne doit être publiée qu'en fin de semaine ont fuité dans la presse aujourd'hui. Ils confirmeraient une moins grande virulence du virus de Omicron. Toutes ces données sont donc encourageantes, mais bien entendu à prendre avec beaucoup de précautions. La chargée de la gestion de cette pandémie au sein de l'Organisation mondiale de la santé l'a encore rappelé ce soir. Nous n'avons pas le tableau complet. Il est trop tôt pour conclure qu'Omicron est plus bénin ou plus grave que Delta.
Voilà, on en saura plus dans les jours qui viennent. Alors le gouvernement attend encore avant de décider de nouvelles mesures. En attendant, les contrôles des passes sanitaires sont renforcés dans les stations de ski notamment, avec l'arrivée des vacanciers. Reportage France Bleu Savoie sur le domaine des Cybelles, Léa Giraudeau.
Il est tout juste 10h au pied du télésiège et les skieurs sont prévenus.
Bonjour, passe sanitaire s'il vous plaît.
Ryan a été engagé pour contrôler les passes sanitaires tous les jours, aléatoirement, sur les 6 stations du domaine.
Les premiers jours ça a été difficile, après il n'y a rien à dire. On sent plutôt content, rassuré, on n'est pas là pour gâcher les vacances des vacanciers.
Et tous se prêtent au jeu.
Bonjour madame, alors tous anti-Covid. Il faut s'organiser, il faut soit l'imprimer, soit avoir un téléphone bien chargé.
Ça nous va très bien, tant qu'on peut skier, on est très content et on profite de cette belle journée.
Ça me paraît absurde. On est en plein air, il n'y a pas beaucoup de monde.
Ça ne perd pas de temps, c'est très bien.
Et sur les téléphones, maintenant, on y accède facilement, donc c'est pas trop compliqué, ça va.
Des contrôles majoritairement bien acceptés, donc 3 récalcitrants en moyenne sur les 3000 contrôles par jour depuis le début des vacances. Mais le dispositif n'est pas parfait, reconnaît cette salariée chargée du contrôle des passes.
On n'est pas assez pour contrôler. On n'est que 3 à contrôler sur toute la station. On reste 30-40 minutes sur un télésiège. Et ce qui fait que tous les autres télésièges ne sont pas contrôlés en fait pendant ce temps-là. Du coup, les gens ils partent et ils vont à d'autres sites. Quoi.
Le domaine des Cybelles, où se trouve la station, a déjà prévu de faire appel à des renforts d'ici la fin de semaine.
15 000 contrôles ont déjà été effectués ces 3 dernières semaines sur le département de la Savoie. Précision aussi aujourd'hui du gouvernement, le pass vaccinal qui sera mise en place pour aller au théâtre, au cinéma, au restaurant, sera aussi imposée à tous les salariés aujourd'hui soumis au pass sanitaire. 1 800 000 personnes, question de cohérence, pointe le ministère du Travail, qui demande par ailleurs aux entreprises de s'organiser dès maintenant pour renforcer le télétravail à la rentrée à partir du 3 janvier, pour monter à 3 ou 4 jours de travail à la maison par semaine. C'était pas vraiment l'idée, hein, mais aux Pays-Bas, à l'approche des fêtes, certains Néerlandais ont bien du mal à respecter le confinement imposé depuis le début de la semaine. Ils sont nombreux à passer la frontière et à aller faire leurs courses de Noël en Allemagne ou en Belgique. C'est le reportage à Anvers de Pierre Benazet.
Sur le Maire, la grande artère commerçante du centre d'Anvers, on entend partout l'accent des Pays-Bas. Kees vient de Middelbourg, en Zélande. Une heure de voiture pour faire des courses et aller au restaurant.
Maintenant, aux Pays-Bas, tout est fermé depuis dimanche. Donc on vient à Anvers prendre du bon temps. Pour la dernière fois cette année. Et l'an prochain, on verra bien ce qu'on fait. C'est vraiment dommage que tout ait dû repartir en confinement. Mais bon, il n'y a pas le choix pour la santé publique. Donc c'est comme ça. En tout cas, c'est pour ça qu'on est ici.
Mais tous ne sont pas frontaliers, loin de là. Jaap est par exemple venu de Leyde, en Hollande méridionale, 140 km sans compter les bouchons.
Non, on n'est pas belge, on est venu parce qu'on peut faire des achats agréablement et pas aux Pays-Bas. Ici, ils s'y sont mis plus vite pour les rappels du vaccin. À mon avis, c'est ça l'histoire. Et aux Pays-Bas, on est à la traîne.
Avec ses 3 filles, Nicolette est carrément venue d'Apeldoorn, dans la Gueldre, au centre des Pays-Bas, pour les magasins, mais aussi pour un concert pour enfants, puisqu'il n'y a plus d'activité culturelle aux Pays-Bas.
Je trouve ça difficile depuis qu'aux Pays-Bas, tout est fermé. En plein dans les fêtes et même pas de magasins. Donc hop, du shopping et concert de Kadri.
Les Bataves sont tellement nombreux à franchir les frontières que le Premier ministre néerlandais a formellement appelé ses concitoyens à ne plus aller faire leurs courses en Belgique ou en Allemagne. Pierre Benazet, France Inter, à Anvers.
Et de toute façon, la fête est finie ce soir pour les Néerlandais fêtards. La Belgique annonce la fermeture de ses salles de spectacle à partir de dimanche et le retour des jauges dans les commerces. En Espagne, le port du masque redevient obligatoire à l'extérieur et dans les tribunes des stades de foot en France ce soir, dernière journée de Ligue 1 de l'année. Il y aura du monde, même avec l'épidémie et même si les cas parmi les joueurs se multiplient, Alexandre Vaux.
Aucun match n'est annulé ce soir puisque le règlement de la Ligue de football professionnel autorise la tenue d'une rencontre si chaque équipe présente au moins 20 joueurs, dont un gardien. Mais depuis le début de la semaine, le nouveau variant Omicron n'épargne pas la Ligue 1. Un cluster a été repéré aux Girondins de Bordeaux, 6 cas positifs au stade de Reims, plusieurs cas également ces dernières heures au SCO d'Angers et au PSG. À Paris, il ne s'agit pas de Lionel Messi, mais de Thilo Kehrer et Eric Dina Mbimbe, des joueurs touchés alors que les stades vont continuer de se remplir ce soir pour la dernière journée de Ligue 1 de l'année, ce qui pourrait être aussi la dernière journée avec du public avant un long moment si le variant Omicron continue sa progression en France pendant les fêtes, puisqu'à l'instar de l'Allemagne où certains matchs de foot se jouent déjà à huis clos selon les régions et où toutes les compétitions sportives se joueront dès mardi à huis clos. De nouvelles mesures pourraient être annoncées en France début janvier.
Et côté sport, le PSG pour l'instant loin devant tous les autres. C'est la deuxième place du classement qui se joue ce soir pour cette fin de première partie de saison. Et puis sachez que la grippe s'installe aussi. L'Occitanie est la première région de métropole à être placée en phase épidémique. L'Hérault et le Gard sont particulièrement touchés. Quatre autres régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France sont en phase pré-épidémique.
Épidémie ou pas, l'élection présidentielle en tout cas ne sera pas reportée.
Promesse répétée ce midi par le porte-parole du gouvernement car il en va, dit-il, de la vie démocratique de notre pays. Il pourra y avoir toutefois une réflexion à mener sur l'organisation des meetings, du scrutin. Le ministre de l'Intérieur a prévu d'en parler avec le président du Conseil constitutionnel. Une campagne qui a 4 mois de l'échéance maintenant n'est pas simple pour tout le monde. Nicolas Dupont-Aignan, candidat pour la 3e fois, a perdu une bonne partie de ses troupes en 5 ans. Élodie Forêt, 2 collaborateurs encore ces derniers jours parmi les plus proches.
C'est un nouveau coup dur pour Nicolas Dupont-Aignan avec une cellule communication qui a explosé ces derniers jours. Départ de la conseillère Ella Kélian qui travaille avec lui depuis avril et de Pierre-Louis Galli, directeur de la communication. Dans un communiqué, celui-ci évoque des raisons familiales et personnelles. Mais au sein de l'équipe, d'autres bruits courent. Si les gens partent, nous dit-on, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'en vrai, il n'y a pas de campagne, un agenda vide et rien à raconter aux journalistes. Nicolas Dupont-Aignan, lui, s'évertue à dire qu'il n'est pas un homme seul. Sa communication, c'est son attaché parlementaire qui en aura désormais la charge. Une directrice de campagne vient aussi d'être nommée, Anne Boissel, ex-vice-présidente de Debout la France, qui avait claqué la porte en 2017 lors de l'alliance avec Marine Le Pen. Le candidat qui a fait de la lutte contre le pass sanitaire son cheval de bataille jure également qu'il est sur le point d'obtenir ses parrainages. C'est pour ça, grince-t-il, que tout est bon pour m'abattre, mais vous verrez, je survis à tout.
Élodie Forêt, c'était une décision attendue depuis longtemps par les professionnels exposés aux pesticides. Les cancers de la prostate liés à l'exposition à tous les pesticides sont désormais reconnus comme maladies professionnelles. Le décret a été publié ce matin. Bonsoir Kathleen Comte.
Bonsoir.
C'était très attendu, on l'a dit, par les professionnels des Antilles exposés au chlordécone, mais ce ne sont pas les seuls à être concernés.
Non, les agriculteurs en métropole aussi sont concernés puisqu'il s'agit bien de l'exposition à tous les pesticides. Christian, 66 ans, est un ancien éleveur laitier breton. Il a utilisé des pesticides pendant des années avant d'apprendre en 2015 qu'il a un cancer de la prostate. S'ensuit un long combat pour la reconnaissance de sa maladie en maladie professionnelle, combat qu'il gagne l'année dernière. Aujourd'hui, c'est pour les autres agriculteurs qu'il est soulagé.
Il faut être à la fois en lutte pour sauver sa peau, enfin essayer de s'en tirer de cette saloperie. Et puis il faut aussi demander et avoir la niaque pour mener un combat, pour arriver à obtenir cette maladie professionnelle. Donc oui, c'est un sacré soulagement parce que maintenant, les démarches sont beaucoup moins compliquées que celles auxquelles j'ai dû faire face. Oui.
Michel Bénard est le président du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Il nous explique ce que ce décret va changer.
Le médecin ne peut pas refuser à la personne qui a un cancer de la prostate, qui est dans le milieu agricole, qui a utilisé des pesticides, d'établir ce certificat qui est la première étape de la démarche de reconnaissance en maladie professionnelle. Quand on est reconnu en maladie professionnelle, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le certificat de consolidation, qui ne veut pas dire guérison, qui permettra à la personne d'obtenir une rente à vie.
Pour prétendre à ces droits, deux conditions tout de même. Les agriculteurs doivent avoir été au contact des pesticides pendant au moins 10 ans et le délai de prise en charge ne peut pas dépasser 40 ans.
Merci Kathleen Comte. Sauf coup de théâtre, la branche hôtellerie-restauration tient son accord sur les salaires. La CFDT a décidé de signer la proposition du patronat pour une augmentation de 16,3% des rémunérations minimales. Cela suffit pour valider l'accord si la CGT et Force ouvrière ne s'y opposent pas. Nouveau procès pour des Dalton aujourd'hui à Lyon. Ce groupe connu pour des rodéos sauvages, pour ses irruptions sur les pelouses des stades de foot. Cet après-midi, 2 jeunes majeurs étaient jugés pour des tirs de
mortier dans la rue en marge d'une émission de CNews. Finalement, il ne retourne pas en détention. Mathilde Imberti a suivi l'audience.
Le 24 novembre dernier, CNews s'implante le temps d'une émission dans le quartier populaire de la Guillotière. Invité central, Jordan Bardella du Rassemblement National. CNews propose aux Dalton de participer. Refus du groupe qui ne se montre pas à la télévision, mais va commanditer des tirs de mortier au moment de l'émission, alors que le quartier est encerclé par les forces de l'ordre et qu'une manifestation est en cours. Quatre jeunes, dont deux mineurs, vont aller tirer des feux d'artifice, une vingtaine de tirs, puis se débarrasser des déguisements sous une voiture. Bilan, pas de blessés et aucune plainte déposée. Deux des jeunes impliqués étaient jugés malgré tout pour faits de violence. Ils reconnaissent une erreur, j'ai été con, j'ai suivi, je regrette. Ils écopent finalement de 4 mois avec sursis pour le premier, 5 fermes pour son copain, mais sans maintien en détention. C'est un jugement raisonnable, estime maître David Metaxas, habituel défenseur des Dalton.
C'était plus une farce, une démonstration en face de Jordan Bardella pour dire, bah non, les quartiers, c'est pas ce que vous dites et on va t'accueillir à notre façon, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Donc c'est un soulagement qu'ils puissent être en liberté ce soir. Pour moi, c'est politique, c'est éminemment politique. Très clairement, on a senti une accélération, une inflation judiciaire, alors qu'en fait, c'est une bande de gosses. Ils veulent simplement, quelque part, nous montrer qu'ils existent.
La justice a ouvert une dizaine de procédures contre les Dalton à ce stade et leur compte Instagram, dont Gérald Darmanin avait demandé la fermeture, reste accessible. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et puis une accusation de plus à l'encontre de l'ancien international français de football, Benjamin Mendy. Il est inculpé pour une 7e accusation de viol. Son club de Manchester City l'a suspendu en août dernier.
La diplomatie a aussi les médias pour terrain de jeu.
L'Allemagne qui coupe un canal de diffusion de la chaîne russe Russia Today en langue allemande. Le Kremlin dénonce une censure et dit espérer que la France, où elle a été accusée d'être un organe de propagande, ne l'empêche pas de travailler. À Moscou, les précisions de Sylvain Tronchet.
Pour Emmanuel Macron, RT France n'est ni plus ni moins qu'un organe de propagande du Kremlin. Le chef de l'État français l'avait dit à Vladimir Poutine à Versailles en 2017. Et en représailles, la salle de presse de l'Élysée avait été interdite d'accès à ses journalistes au début de son mandat. Depuis, quelques accréditations ont été accordées à RT, mais la chaîne se plaint toujours d'être parfois refoulée. La République En Marche ne voulait pas d'elle pendant les européennes, notamment. La France n'est d'ailleurs pas la seule à avoir cette lecture. Aux États-Unis, RT a dû s'enregistrer en tant qu'agent étranger. Au Royaume-Uni, les autorités ont menacé de lui retirer sa licence de diffusion et la chaîne est carrément interdite dans plusieurs pays, notamment en Lituanie et en Lettonie. Pour le Kremlin, ces mesures sont inadmissibles. RT ne serait, à en croire les Russes, que l'équivalent de la BBC pour les Anglais ou de France 24 pour les Français. Chacun pensera ce qu'il veut de la ligne rédactionnelle de ces différents médias. Disons simplement que les conceptions du journalisme qui y ont cours ne sont pas toujours les mêmes. Avant-hier à la télévision, Margarita Simonian, la toute-puissante rédactrice en chef de Rassia Sivonia, qui chapeaute RT, estimait que les journalistes qui enquêtent sur la fortune cachée des fonctionnaires sont des traîtres à leur patrie.
Sylvain Tronchet à Moscou. L'univers virtuel est à la mode en ce moment. L'univers en réalité augmentée que nous promet Facebook. Et la Matrice qui est de retour dans le quatrième volet de la saga Matrix au cinéma aujourd'hui. La série des sœurs Wachowski a bouleversé les codes, a marqué des générations, décidément très en avance sur son temps, Victor Vasseur.
Matrix est un terrain de jeu formidable pour les chercheurs. La trilogie a sans aucun doute marqué l'histoire du cinéma. Mais pas seulement, estime Natacha Vazder, pour cette spécialiste de science-fiction à l'université de Bordeaux, il y a un avant et un après Matrix.
D'abord parce que ça a été une esthétique totalement révolutionnaire, parce que c'est un film qui va reprendre le code des jeux vidéo. On va mélanger les codes, les films de kung-fu, par exemple des mangas, et évidemment des références également à une littérature un petit peu plus ancienne avec Lewis Carroll et Alice au pays des merveilles.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Ces films ont anticipé le 21e siècle. La science-fiction est même devenue réalité. Quand on pense au métavers, ce projet d'univers numérique parallèle imaginé par Facebook, pas si loin du principe de la matrice, les films des sœurs Wachowski, qui prévenaient déjà des dangers de cette réalité virtuelle, explique Natacha Vazder.
Le danger, c'est le fait qu'on puisse se complaire en fait dans cet univers virtuel sans vouloir revenir dans la réalité. On délaisserait totalement notre corps au profit de notre esprit, puisqu'on n'a plus besoin de notre corps dans le métaverse.
À une différence près, dans la matrice, les humains sont emprisonnés par des intelligences artificielles.
Matrix, Résurrection dans les salles aujourd'hui. Le cinéma, c'est aussi la déception pour le film Titane, Palme d'Or à Cannes, qui ne passe pas finalement l'étape des présélections pour les Oscars. Et puis le film du soir à la télé, il va commencer plus tard, figurez-vous. Dans les faits, on s'y est déjà un peu habitué à ces programmes qui ne commencent plus à 21h, mais à 21h05 ou 21h10. Le CSA a rappelé les chaînes à l'ordre sur ces retards, et plutôt que de rogner sur les programmes de fin de journée ou le temps de publicité qui rapporte gros à cette heure-là, TF1, France 2 et France 3 notamment ont préféré décaler officiellement l'horaire du début de soirée à 21h10.
Mais en voilà une décision courageuse. Merci beaucoup Hélène Philly. À demain. Le téléphone sonne, c'est dans deux petites minutes. On va parler forêt ce soir. Notre forêt qui est toujours belle, qui est toujours productive, mais attaquée aussi, notamment à cause du réchauffement climatique. L'exploiter mieux, l'exploiter moins, l'utiliser différemment. Toutes vos questions au 01 45 24 7000. Profitez-en, c'est maintenant.